Bonsoir. Quel privilège de pouvoir être avec vous ce soir grâce à la puissance de la technologie. J'espère que votre soirée mémorable a très bien commencé. Ce soir, nous passerons brièvement en revue, d'un point de vue historique, le but de cette soirée, ce que nous devons avoir à l'esprit et ce que les Écritures déclarent. La Pâque avait eu lieu comme hier soir, là. Dans l'Égypte ancienne, ça a été le moment où la puissance de l'Égypte sur le peuple d'Israël a été anéantie par les terribles événements de cette nuit-là, la nuit de la Pâque. Les premiers-nés des Égyptiens ont été tués, selon la parole annoncée par Dieu, alors que les premiers-nés des Israélites étaient en sécurité dans leur maison. Ils y étaient en sécurité parce que le sang de l'agneau pascal avait été mis sur le linteau et les montants des portes de leur maison, selon les instructions de Dieu. Quelle belle illustration de la façon dont le sang de l'agneau de Dieu nous sauve aussi de la mort. C'est donc la nuit précédente que ces choses se sont passées dans l'ancien Israël. Entrons dans l'histoire pour parler de ce qui s'est passé ensuite. Dans la soirée, au cours de la nuit et au lever du jour qui a finalement conduit à la soirée que nous sommes tous ici en train de célébrer, la soirée mémorable. Examinons Exode 12, à partir du verset 29. Voyons donc Exode 12, le verset 29. Au milieu de la nuit, l'Éternel frappa tous les premiers-nés dans le pays d'Égypte, depuis le premier-né de Pharaon, assis sur son trône, jusqu'au premier-né du captif dans sa prison, et jusqu'à tous les premiers-nés des animaux. Oui, même les premiers-nés des animaux. Pharaon se leva de nuit, lui et tous ses serviteurs, et tous les Égyptiens, et il y eut de grands cris en Égypte, car il n'y avait point de maison où il n'y ait un mort. Quel événement spectaculaire ça devait être! Verset 31. Dans la même nuit, Pharaon appela Moïse et Aaron, et leur dit, « Levez-vous, sortez du milieu de mon peuple, vous et les enfants d'Israël. Allez, servez l'Éternel, comme vous l'avez dit. Prenez vos brebis et vos bœufs, comme vous l'avez dit. Allez et bénissez-moi. » C'est ce que Pharaon a dit. Il était effondré à ce moment-là. Certaines plaies l'avaient affecté, mais son cœur s'était endurci par la suite, et les choses avaient évolué jusqu'à culminer par cette dernière plaie majeure. Il était accablé. Il a finalement dit, « Moïse et Aaron, peuple d'Israël, vous tous, allez-vous-en exactement comme vous le demandez depuis longtemps. » En un sens, la puissance de l'Égypte sur eux avait été anéantie par l'événement ce soir-là. Certains sont confus parce que, selon le récit, il est très clair que les Israélites, y compris Moïse et Aaron, devaient rester dans leur maison toute la nuit. Certaines personnes sont confuses parce qu'il est dit que Pharaon a appelé Moïse et Aaron durant la nuit pour leur dire quelque chose. Leur communiquer de l'information. Nous savons qu'ils sont effectivement restés chez eux jusqu'au matin, jusqu'au lever du jour. Exode 12, verset 22 souligne que c'était un ordre de Dieu, que chaque Israélite devait rester dans sa maison jusqu'au matin, jusqu'à l'aube. Et le verset 28 dit clairement qu'ils ont obéi à Dieu à cet égard. Moïse et Aaron et le peuple d'Israël ont obéi à Dieu. Ils n'ont pas enfreint son commandement, sa directive. Alors, comment faut-il comprendre ce passage? Cela vaut la peine de revoir les choses de temps en temps. La réponse est intéressante. Pharaon a-t-il réellement fait venir Moïse et Aaron en sa présence cette nuit-là? Non, il ne l'a pas fait. Allons à Exode chapitre 10. Dans Exode 10, il y a un passage qui aide à comprendre tout cela. Après la plaie, précédant celle de la mort des premiers-nés, le cœur de Pharaon s'était de nouveau endurci, et il était alors furieux. Il était bouleversé. Voyez l'importante déclaration qu'il fait à Moïse au verset 28 d'Exode 10. Pharaon dit à Moïse, « Sors de chez moi, garde-toi de paraître encore en ma présence, car le jour où tu paraîtras en ma présence, tu mourras. » Comment Moïse a-t-il réagi? Nous le voyons au verset 29. « Tu l'as dit, » répliqua Moïse, « je ne paraîtrai plus en ta présence. Moïse, parlant sous l'inspiration de Dieu, a dit, « Tu sais quoi? Tu as prophétisé, Pharaon. Tu as raison. Tu ne verras plus jamais mon visage. » Nous savons que Moïse ne s'est pas déplacé cette nuit-là pour aller voir Pharaon, car il a dit ici même que cela n'arriverait pas. En fait, si vous allez au chapitre suivant, Exode 11, Moïse explique ce qui allait se passer. Il dit d'abord que les premiers-nés vont mourir, c'est la dernière plaie. Et ensuite, il dit ce qui va se passer après que l'Égypte aura perdu tous ses premiers-nés. Il le décrit en détail dans Exode 11, verset 8. « Alors tous tes serviteurs que voici descendront vers moi et se prosterneront devant moi en disant, « Sors, toi et tout le peuple qui s'attache à tes pas. Après cela, je sortirai. » Autrement dit, je quitterai l'Égypte avec ce peuple. Moïse sortit de chez Pharaon dans une ardente colère. Quel retournement de situation en une nuit! Le Pharaon avait tous les pouvoirs, de nombreux serviteurs et toutes les richesses face à ce peuple, écrasé et esclave. Moïse dit, « Après cette nuit, tout va changer. Tous tes serviteurs quitteront ta présence et viendront me dire, « S'il te plaît, pars exactement comme tu l'as dit. » Il est temps pour vous de partir. » Dans un verset précédent, il est même dit, « Pendant que tu gémiras sur la mort de ton premier-né, pas même un chien ne remuera sa langue contre le peuple d'Israël. » C'est vraiment une circonstance remarquable où les serviteurs de Pharaon se prosternent devant Moïse pour lui dire, « s'il te plaît, va-t'en. » La puissance de Dieu les a vaincus en ce sens. Il est très clair que Moïse et Aaron ne se sont pas présentés devant Pharaon. Son pouvoir sur eux a été complètement anéanti. Ils n'avaient plus besoin de répondre à cet homme qui les convoquait. Ils étaient en ce sens libérés. Non, Moïse et Aaron ne sont pas sortis cette nuit-là pour aller voir Pharaon. Ils n'ont pas enfreint l'ordre de Dieu. La Pâque a eu lieu ce soir-là. Et ce n'est que le matin, le jour de la Pâque, qu'ils sortirent de leur maison et commencèrent à faire le nécessaire pour quitter l'Égypte le soir suivant. En fait, sans entrer dans les détails, je recommande vivement à chacun d'entre vous, si vous ne l'avez pas encore fait, de prendre le temps de lire l'article de M. Gérald Weston paru en anglais dans le Living Church News de mars-avril 2020, au sujet de la première Pâque. Pour ceux qui sont confus au sujet de ces versets, qui se demandent si la Pâque a eu lieu le 14 ou le 15 de Nissan, si le peuple est parti le soir de la Pâque ou le soir suivant, cet article de M. Weston vous donne 7 preuves concernant la chronologie exacte de ces événements et prouve de manière absolue que la Pâque a eu lieu dans la soirée qui commence le 14e jour et qu'ils ont quitté l'Égypte la nuit suivante. C'est un excellent article qui présente 7 preuves. C'est donc dans le Living Church News de mars-avril 2020. Je recommande vivement cet article en particulier. Revenons maintenant à Exode chapitre 12. Exode 12, et continuons le récit de ce qui s'est passé ensuite. Comme nous le verrons, ce fut une journée incroyablement chargée pour les enfants d'Israël. Exode 12, verset 33. Ayant reçu des directives, ils ont terminé les préparatifs et commencé leur marche. Alors qu'ils traversaient l'Égypte et qu'ils faisaient tout le travail nécessaire, il est dit au verset 33, « Les Égyptiens pressaient le peuple et avaient hâte de les renvoyer du pays, car ils disaient, « Nous périrons tous. » Ils étaient terrifiés par ce qui leur arrivait à tous et ils disaient, « Si vous ne partez pas, nous allons tous mourir. » Ils les pressaient. D'autres versets indiquent que pendant cette journée, dans toute l'Égypte, ils étaient aussi occupés à enterrer leurs morts, car les morts dans la nation étaient très nombreux. Verset 34, le peuple emporta sa part avant qu'elle soit levée. Ils n'avaient pas eu le temps de la laisser lever et de faire les choses habituelles. Ils avaient une tâche particulière à faire ce jour-là. Ils enveloppèrent les pétrins dans leurs vêtements et les mirent sur leurs épaules. Les enfants d'Israël firent ce que Moïse avait dit, et ils demandèrent aux Égyptiens des vases d'argent, des vases d'or et des vêtements. L'Éternel fit trouver grâce au peuple aux yeux des Égyptiens, qui se rendirent à leur demande, et ils dépouillèrent les Égyptiens. Certains s'interrogent sur le moment où cela s'est produit. car dans certaines versions de la Bible, les mots employés diffèrent un peu. La chronologie des événements ne devrait pas prêter à confusion. Quand il est dit que l'Éternel fit trouver grâce au peuple aux yeux des Égyptiens, cela ne signifie pas que les Égyptiens aimaient soudainement les Israélites en leur disant « Nous sommes heureux de vous avoir parmi nous, heureux que tous nos premiers-nés soient morts et que nous ayons subi toutes ces plaies. » Trouver grâce signifie simplement que les Égyptiens étaient tellement terrifiés que lorsque les Israélites ont fait ce que Dieu leur a ordonné, lorsqu'ils ont rassemblé leurs biens, lorsqu'ils se sont organisés, qu'ils se sont déplacés en grand nombre, ils ont fait ce que Dieu leur avait ordonné. Ils sont allés voir les Égyptiens et leur ont dit, « Donnez-nous votre or, votre argent, vos vêtements, vos ornements, et ainsi de suite. » Les Égyptiens l'ont fait. Normalement, quand vous demandez des choses comme ça à quelqu'un, ils ne vous les donneront pas nécessairement, mais Dieu avait déstabilisé les Égyptiens au point où les Israélites ont eu des réponses favorables. En fait, on leur a donné tant de richesses qu'ils ont quitté l'Égypte comme un peuple conquérant. Normalement, ce sont les vainqueurs d'un peuple qui les payent. Ils prennent tous leurs biens et leurs richesses. Et voici que ces gens qui étaient des esclaves jusqu'à la nuit précédente, ils étaient esclaves dans le pays. Et maintenant, comme ça, grâce à la puissance de Dieu, ils partaient en vainqueur absolu, couverts de butin, du butin de ceux qui les avaient jadis exploités. Vraiment étonnant. Dans Exode 12, au verset 37, il est dit, « Les enfants d'Israël partirent de Ramsès pour Succot au nombre d'environ 600 000 hommes de pied, sans les enfants. Une multitude de gens de toute espèce montèrent avec eux. Ils avaient aussi des troupeaux considérables de brebis et de bœufs. Il s'agit de la première partie de leur voyage. Ils partirent donc de Ramsès, comme nous le verrons dans un instant. Quelle entreprise gigantesque, considérant les détails qui nous sont présentés. Premièrement, notez que 600 000 hommes sont partis à pied, sans compter les enfants. Certaines personnes ont estimé de différentes manières le nombre possible de personnes supplémentaires pouvant s'ajouter au groupe. Le mot « homme » peut désigner de manière générale le nombre d'adultes. Mais s'il ne désigne que les hommes, cela n'inclut ni les femmes ni les enfants. Au minimum, même en considérant que ce mot hébreu signifie à la fois, disons, les hommes et les femmes, si vous ne comptez pas les enfants ni les familles élargies, il est clair que nous sommes en présence d'une multitude de gens, d'un vaste ensemble de personnes représentant sûrement facilement au moins 1 million de personnes. Imaginez un peu. J'ai vu des estimations plus importantes. Beaucoup les ont vues aussi. Et je crois qu'il y a des raisons de les considérer. Mais même si ce n'était pas le cas et que nous optons pour un chiffre conservateur, comme 1 million de personnes, par exemple, la tâche était quand même gigantesque. À l'époque, ces gens n'avaient pas toutes les affaires sur leur téléphone intelligent qu'on peut simplement glisser dans une poche. Ils avaient des possessions, ils avaient des troupeaux. Vous savez, c'est un peu difficile de faire courir les moutons. Courez les moutons, allez-y, allez, faut arriver à temps. Ils devaient gérer tout cela et être à un point de rassemblement à un moment précis, prêt pour le grand départ. Au moins, encore une fois, 1 million de personnes. Peut-on imaginer un tel groupe? Cette journée a dû être très difficile. Et bien sûr, en cours de route, ils obéissaient à l'ordre de Dieu. Ils s'arrêtaient devant les maisons des Égyptiens, leur demandaient et prenaient leurs affaires. Ils devaient les placer quelque part pour les emporter. Quelle journée! Ça a été. Leur sortie d'Égypte n'a pas commencé immédiatement. Ce n'est pas comme si l'Exode avait officiellement commencé le matin de la Pâque. Le travail était alors en cours, mais la sortie comme telle n'avait pas encore commencé. Ce n'est qu'après avoir été rassemblés en tant que peuple à Ramsès qu'ils sont partis, que, selon Dieu, la sortie d'Égypte a commencé. Nous voyons cela dans Nombre 33. Permettez-moi de le lire brièvement. Nombre 33, verset 1. Voici les stations des enfants d'Israël qui sortirent du pays d'Égypte, selon leur corps d'armée, sous la conduite de Moïse et d'Aaron. Nous allons parler du mot « armée » dans quelques instants. Verset 2. Moïse écrivit leur marche de station en station, d'après l'ordre de l'Éternel. Nous n'avons donc pas à deviner que Ramsès était le lieu où l'Exode a officiellement commencé, le lieu d'où le peuple d'Israël a quitté l'Égypte. L'Éternel avait ordonné à Moïse d'écrire l'ordre de marche de leur voyage. Et Moïse l'a fait, fidèlement. Verset 2. Moïse écrivit leur marche de station en station d'après l'ordre de l'Éternel, et voici leur station selon leur marche. Ils partirent de Ramsès le premier mois, le 15e jour du premier mois, le lendemain de la Pâque. Les enfants d'Israël sortirent la main levée à la vue de tous les Égyptiens. La Bible dit à d'autres endroits, comme dans Deutéronome 16, que Dieu les a fait sortir d'Égypte pendant la nuit. C'est cette nuit-là, celle du 15e jour, le lendemain de la Pâque, qu'ils sont partis. Quand vous sortirez à l'extérieur ce soir et que vous verrez cette belle et brillante pleine lune, sachez que c'est la même lune, le même objet dans le ciel qu'ils ont vu quand ils sont partis le soir du 15e jour. Une soirée mémorable. Je trouve toujours cela particulièrement émouvant quand je regarde la lune ce soir-là. Il est aussi question d'armée dans Nombre 33, au verset 1. C'est un mot intéressant qui reflète la structure d'organisation qu'ils avaient quand ils ont quitté. Ils étaient déployés d'une façon précise. On dit d'ailleurs, je ne m'y attarderai pas pour gagner du temps, mais dans Exode 13, verset 18, il est dit qu'ils ne sont pas partis comme une foule désorganisée, mais de manière très ordonnée. Ils sont partis en tant que groupe organisé, disposé en rang. Et selon le sens du mot armée, justement, ils étaient organisés en compagnie et en division. Ils ont quitté en tant que peuple ordonné. Dans certains films à ce sujet, on voit plutôt la scène comme une grande foule sortant de la ville d'une façon désordonnée. Non, ce n'est pas le cas. Non, ils sont sortis d'une manière ordonnée. Ils sont partis en tant que nation, comme une nouvelle nation d'ailleurs que Dieu allait établir dans le monde, la nation d'Israël. Et tout cela aura pris énormément de temps le premier jour. Certains veulent croire que toutes ces choses se seraient produites durant la soirée de la Pâque. Non, non seulement c'est déraisonnable, mais franchement, il me semble qu'il a même fallu un miracle pour qu'autant de personnes parviennent au point de rassemblement à Ramsès le soir suivant. Récapitulons le récit maintenant dans Exode chapitre 12, commençant au verset 39. Ils firent des gâteaux cuits sans levain avec la pâte qu'ils avaient emportée d'Égypte et qui n'étaient pas levés, car ils avaient été chassés d'Égypte sans pouvoir tarder et sans prendre des provisions avec eux. Ils étaient très occupés. C'était, pour ainsi dire, de la restauration rapide, si vous voulez. Dans Exode 12, ils devaient manger en se déplaçant. Ils n'avaient pas le temps de s'arrêter, de s'asseoir et de prendre leur repas, car ils étaient chargés de faire beaucoup de choses. Verset 40. Le séjour des enfants d'Israël en Égypte fut de 430 ans. Et au bout de 430 ans, le jour même, toutes les armées de l'Éternel sortirent du pays d'Égypte. Verset 42. Cette nuit sera célébrée en l'honneur de l'Éternel, parce qu'il les fit sortir du pays d'Égypte. Cette nuit sera célébrée en l'honneur de l'Éternel par tous les enfants d'Israël et par leurs descendants. Cette phrase est formulée de différentes manières dans différentes traductions de la Bible. C'est pourquoi nous appelons cette soirée la soirée mémorable, celle dont il faut se rappeler. C'est ce que nous célébrons ici ce soir. Israël est parti en tant que nation libre. Selon cette image, nous laissons le péché derrière nous, en tant que peuple libéré par Dieu et par Jésus-Christ. En conclusion, je voudrais vous laisser trois sujets à méditer alors que la soirée avance et que nous prendrons bientôt le repas en fraternisant. Je voudrais vous donner trois éléments à considérer. Premièrement, hier soir, la Pâque illustrait ce que le Christ a fait pour nous. Mais ce soir, illustre ce que nous devons faire, nous, suite à ce que le Christ a fait pour nous. Dieu a fait cesser l'emprise de l'Égypte sur Israël le soir de la Pâque. Mais lors de la soirée mémorable, ils ont dû donner suite à la délivrance de Dieu en sortant d'Égypte, un pas après l'autre. Spirituellement, en ce qui nous concerne, nous nous rappelons lors de la Pâque que nous n'aurions pas pu nous libérer nous-mêmes de l'emprise du péché. Nous avions besoin que Dieu le Père et Jésus-Christ agissent dans nos vies. Et Jésus est mort pour accomplir ce que nous n'aurions jamais pu faire. Mais les choses ne s'arrêtent pas là. L'histoire ne s'arrête pas là, car ce soir nous rappelle qu'il n'y a qu'une seule façon légitime de répondre au sacrifice de Jésus-Christ, et c'est d'agir. C'est de laisser le péché derrière nous, de l'éliminer. Nous en avons été libérés, c'est pourquoi nous ne devons pas y rester. Il y a un verset auquel je pense au moins une fois par année lorsque nous célébrons ces deux soirées, la Pâque et la soirée mémorable, et je vais vous le lire sans le commenter faute de temps. Il s'agit de 1 Jean 4, verset 19, où l'apôtre Jean dit « Pour nous, nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. » Un verset qui, pour moi, résume ces deux soirées. Nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. Nous célébrons cette soirée. Nous pouvons le faire parce qu'il nous a d'abord aimés, parce qu'il a agi à notre faveur. Il nous a aimés le premier, comme nous l'avons rappelé lors de la Pâque. C'est pourquoi nous devons l'aimer, c'est pourquoi nous l'aimons. Que signifie l'aimer? Ça veut dire passer à l'action, à cause de son sacrifice. Ne pas le prendre en vain, mais faire ce qu'il faut pour quitter le péché. C'est donc la première chose que je voulais vous rappeler. En fait, il y a un verset qui me vient à l'esprit. Si vous avez votre Bible, allez à 1 Corinthiens chapitre 5, verset 6, dans lequel l'apôtre Paul rappelle aux Corinthiens des éléments importants concernant les jours des pains sans levain. Verset 6. C'est bien à tort que vous vous glorifiez. Ne savez-vous pas qu'un peu de levain fait lever toute la pâte? Faites disparaître le vieux levain, afin que vous soyez une pâte nouvelle, puisque vous êtes sans levain, car Christ, notre Pâque, a été immolé. Verset 8. Célébrons donc la fête, non avec du vieux levain, non avec un levain de malice et de méchanceté, mais avec les pains sans levain, de la pureté et de la vérité. Une chose que j'apprécie vraiment dans la façon dont M. Ken Frank aborde certains sujets, c'est sa façon d'utiliser le mot « donc ». Il dit que l'emploi du mot « donc » sert souvent à révéler l'utilité de quelque chose. J'aime quand M. Frank dit cela. Dans 1 Corinthiens 5, verset 8, il est écrit « Célébrons donc la fête. Faisons disparaître le vieux levain du péché et prenons le pain sans levain de la sincérité et de la vérité. Pourquoi? Dans quel but? Parce que le Christ, notre Pâque, a été immolé. Le Christ, notre Pâque, a été sacrifié pour nous. Donc, faisons les choses que nous avons à faire. La première chose que je veux que vous ayez à l'esprit ce soir, c'est que cette soirée illustre ce qu'il faut faire suite à ce sacrifice. Nous devons agir. La deuxième chose que je veux que vous ayez à l'esprit ce soir, c'est que lorsque nous quittons le péché, nous ne devons pas le quitter d'un air triste et désolé. Nous laissons le péché derrière nous. Nous quittons le monde du diable. Spirituellement, nous devons partir en conquérant, en vainqueur, comme Israël l'a fait. Ils n'ont pas gagné leur liberté par eux-mêmes, mais Dieu les a quand même honorés et il les a fait sortir comme s'ils étaient des conquérants. Allons à Romains 8 et lisons la déclaration de Paul au verset 37. « Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés, car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Nous sommes plus que des conquérants. Nous quittons le péché, comme Israël a quitté l'Égypte, la main levée, avec joie. Si le Fils nous a libérés, nous sommes vraiment libres. Nous n'avons pas échappé de justesse. Nous n'avons aucune excuse pour retourner dans le péché. Si nous y retournons, c'est que nous choisissons de le faire. Parce que nous l'avions quitté la main levée, étant plus que des conquérants. C'est important de s'en souvenir. J'espère que nous l'aurons à l'esprit ce soir. C'est pour cela que nous organisons une belle soirée. Nous prenons soin de faire de cette soirée quelque chose de spécial qui nous rappelle que nous sommes sortis la main levée. Enfin, la troisième chose que je veux vous encourager à faire ce soir se trouve dans Exode 13 au verset 3. Exode 13 au verset 3. Moïse dit au peuple, « Souvenez-vous de ce jour où vous êtes sortis d'Égypte, de la maison de servitude, car c'est par sa main puissante que l'Éternel vous en a fait sortir. On ne mangera point de pain levé. » Allons maintenant au verset 8. « Tu diras alors à ton fils, « C'est en mémoire de ce que l'Éternel a fait pour moi lorsque je suis sorti d'Égypte. » Cette exhortation nous dit de prendre cela personnellement et de le transmettre, de l'exprimer. C'est le troisième point au sujet duquel je veux vous encourager. Ayez de bonnes conversations ce soir. Parlez entre vous. Dites combien il est important pour vous que Dieu vous ait fait sortir d'Égypte. Parlez du début de votre voyage. Encouragez-vous les uns les autres avec cela. Parlez à vos enfants. Expliquez-leur. Je fais ceci parce que Dieu m'a fait sortir de l'esclavage spirituel. Voici ce que cela signifie pour vous. Et voici ce que cela signifie pour moi. Dieu veut que nous transmettions ces choses. Cette soirée a justement été mise à part dans un but merveilleux, spécial aussi. Si vous avez grandi dans l'Église, et c'est le cas de beaucoup d'entre vous, ma femme a eu cette bénédiction, mes enfants l'ont aussi. Pensez-y ce soir. Qu'est-ce que cela signifie pour vous d'avoir été élevé dans la vérité, de ne pas avoir eu à passer votre temps à vivre dans les profondeurs de l'Égypte, de l'esclavage, mais d'avoir eu accès dans ce sens à l'arbre de vie auquel tant de gens n'ont pas accès encore? Profitons de cette soirée pour avoir ce genre de conversation avec ceux qui nous entourent. Quoi qu'il en soit, c'est une belle soirée, une soirée mémorable. Profitons de tout ce qu'elle représente. Appliquons-nous spirituellement à tourner le dos à l'Égypte, à centrer notre esprit sur le futur, à fixer nos yeux sur ce qui vient, comme l'a fait Israël, à rêver de la terre promise que Dieu met devant nous. Faisons en sorte que cela soit notre objectif. Passez une merveilleuse soirée.